cocktail revitalisant, plein de foi et d'espérance pour une vie épanouie et richement bénie en Christ, c'est ce à quoi le pasteur Mohamed Sanogo et l'église Vase d'Honneur vous convient. Par le biais de ce message, laissez votre esprit être nourri, encouragé et motivé par la parole de Dieu.
Cette nation, tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot sur ma vie, Jésus. Tu as le dernier mot. Le dernier mot. Le dernier mot. Le dernier mot. Tu as le dernier. Tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot. Seigneur, tu dis seulement un mot et ton serviteur sera guéri. Dis seulement un mot et nous verrons ta gloire. Dis seulement un mot, c'est toi qui as le dernier mot. C'est toi, mon Dieu, qui as le dernier mot. Apprends-nous à avoir les yeux fixés sur ta puissance, sur ta capacité. Donne-nous ta foi. Donne-nous ta foi, Seigneur. Étends ta main, Seigneur Dieu, sur les maisons, sur les couples, sur les foyers. C'est ce dont tu nous donnes de parler en ce moment. Et j'aimerais parler par ton esprit. J'aimerais parler par toi. J'aimerais dire les mots qui viennent de toi, Seigneur. Manifeste ta grâce. Je t'en supplie. Je m'abandonne en tes saintes mains. Ce sont les mots qui viennent de ta bouche qui emportent la vie, Jésus. Ce sont les mots qui viennent de toi qui transforment les cœurs. Et je m'en remets entre tes mains. Je prie, Papa. Je prie, Seigneur. Que tu glorifies ton nom dans nos vies aujourd'hui. Dispose nos cœurs afin que nous puissions recevoir ta parole. Et donne-moi de parler selon toi. Saint-Esprit, parle. Prends le contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons acclamer notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Nous voulons encore proclamer ou dire à haute voix le thème de notre enseignement, le thème de notre message. Message que nous avons commencé... Voilà déjà plusieurs semaines. Est-ce qu'on peut citer ensemble le thème qui est dans mon dos, sur la bâche arrière? 1, 2, 3. Réussir mon mariage, une priorité pour ma destinée. Alléluia. Je ne me lasse pas de le dire, de le répéter dimanche après dimanche. Tu es un homme, tu es une femme de destinée. Tu as une destinée. La destinée, c'est ce que tu es venu réaliser sur la terre. C'est ce pourquoi tu es né. Et tu es né pour réaliser quelque chose d'important. Quand je dis important, ce n'est pas forcément important aux yeux des hommes, mais important pour Dieu, important pour toi. Alléluia. Sans la réalisation de cette chose-là, tu ne peux pas être une personne épanouie. L'épanouissement que tu recherches n'est pas seulement... et majoritairement même matériel. Tu crois que c'est le matériel qui te le donne. Mais le véritable épanouissement, c'est lorsque une personne réalise le but de sa vie. C'est là qu'elle se sent accomplie. Un homme de Dieu, le docteur Miles Monroe, disait ceci, que les cimetières sont les endroits les plus riches au monde, où il y a les plus grands trésors. Parce que vous voyez, le trésor d'un homme, c'est ce qu'il a en lui. Et il dit, les cimetières sont remplis de chants, de chansons, de chants qui n'ont jamais été chantés. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ont été enterrées avec des compositions, des chants, des mélodies extraordinaires qui n'ont jamais pu être clamées, jamais pu être présentées à l'humanité. Certaines personnes sont mortes avec des formules de médicaments qu'elles avaient en elles. Une connaissance, une chose divine qu'elles avaient établie en elles. Certaines personnes sont parties avec ce qu'elles avaient en elles. Et il dit ceci, donc, le cimetière est l'endroit le plus riche parce qu'il y a tous ces trésors-là, tous ces trésors importants qui ont été enterrés. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas que tu meures, que tu quittes ce monde sans avoir réalisé ce pourquoi tu es né. Et une des choses encore que ce serviteur de Dieu dit, c'est que il n'y a pas de, j'aime bien cette phrase en fait, il n'y a pas de succès sans successeur. Vous me suivez? Hein, ça rime, hein, ça va ensemble. Il n'y a pas de succès s'il n'y a pas de successeur. C'est-à-dire, un homme doit vivre comme s'il allait partir. C'est-à-dire, son esprit, sa conscience, c'est comment, qu'est-ce que je vais laisser sur la terre à mon départ? La mort, la vraie mort, c'est de partir sans rien laisser, sans suite, sans successeur, sans succession. La mort, la véritable mort. Jésus dit que les Abraham ne sont pas morts. Pourquoi Abraham n'est pas mort? Physiquement, Abraham est parti, mais son message, ses idées, ses principes sont restés jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'on dit Abraham, le père de la foi, Abraham a engendré la foi. Alléluia. Alléluia. Mais le successeur dont parle le Seigneur n'est pas seulement successeur biologique, comme on dit tes enfants. Même les successeurs biologiques, ils viennent du mariage. Amen. Ils viennent de l'union entre l'homme et la femme. C'est-à-dire un enfant biologique. Abraham n'a pas seulement engendré Isaac. Abraham a aussi engendré le mystère de la foi en Dieu. La Bible dit que Abraham est le père de la foi. Alléluia. Alléluia. Toi aussi, tu es potentiellement le père ou la mère de quelque chose. Si Abraham est le père de la foi, Sarah, sa femme, est mère de la foi parce que c'est leur union. C'est l'attente que les deux ont manifestée pour avoir leur fils qui a dégagé une foi qui nous conduit jusqu'à ce jour. Abraham n'a pas seulement eu Isaac et Ismaël et ce qu'il a eu après comme fils. Jésus pouvait dire ceci, que ceux qui croient, Paul même le dit, que ceux qui ont la foi d'Abraham sont aussi fils d'Abraham. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Votre destin, c'est ce que vous allez laisser avant de partir. Votre destin, c'est ce que vous êtes venu réaliser. Mais vous pouvez ne pas réaliser. Vous pouvez ne pas atteindre ce but. Et Dieu vous a donné un moyen pour pouvoir réaliser cela. Quelque chose qui va vous propulser, qui va vous conduire plus fortement vers la manifestation de votre destin, c'est le mariage. Il y a un mystère, il y a une clé puissante dans le mariage. Il existe quelqu'un sur la terre qui est sorti de vous, qui transporte une autre partie, un complément de votre vision. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Lorsque Dieu a créé Adam, il a tout mis en Adam. Il dit ce que, quand il a fini de créer Adam, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu vit que ce qu'il avait fait c'était très bon. Donc ça veut dire que c'est parfait. Adam n'avait pas besoin de complément. C'est la raison pour laquelle lorsqu'il a voulu créer Ève, Adam étant parfait, il ne pouvait pas aller prendre quelque chose d'extérieur pour lui amener en complément. Il a simplement enlevé une partie de la perfection d'Adam. La Bible dit qu'il lui a pris une côte. Alléluia. Et il a conçu la femme. Alléluia. Donc, ça veut signifier quoi? Que la destinée parfaite, la vision parfaite de Adam ne se trouve plus en lui seul. Il y a une partie qui se trouve en quelqu'un d'autre. Et lorsque il va retrouver son épouse, lorsque Ève va retrouver son conjoint, les deux ensemble vont former ce que Dieu avait au préalable dit, c'est très bon. Parce que le très bon que Dieu a prononcé là, on l'a coupé en deux. Quelqu'un me suit? Dieu a créé Adam et dit, oh, c'est très bon. Et puis il a dit, bon, Adam, il n'est pas bon que tu sois seul. Mais comme tu es déjà parfait, ah, je ne sais pas ce que je vais compléter. Bon, ok. Je vais te séparer en deux. Et puis il l'endort, il prend une partie, puis il l'amène de son côté. Il l'amène de l'autre côté. Et maintenant, les deux doivent se rencontrer. Quelqu'un est-il avec moi? Amen, amen, amen. pour bâtir quelque chose de très, très, très intéressant. Et lorsque vous rentrez dans cette compatibilité-là, amen, vous commencez à tendre, à être propulsé vers le but de votre vie. Malheureusement, beaucoup de foyers se mettent ensemble sans sentir ou sans voir ou sans constater qu'ils sont en train de progresser pour aller vers leur destin. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi le mariage de beaucoup de personnes semble ne pas les conduire quelque part? Même si leur couple s'entend bien, même s'il n'y a pas de dispute, ils ne sentent pas particulièrement qu'ils sont en train de prendre une direction. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, soit avant votre mariage, soit pendant votre mariage. Et ce dont nous sommes en train de parler maintenant, ce sont les choses qui n'ont pas du bon fonctionner, ou pour certains qui fonctionnent, mais qui sont passées avant le mariage. De sorte que ceux qui sont déjà mariés puissent rattraper ce qui a manqué, donc racheter le temps. Et ceux qui ne sont pas encore mariés puissent appliquer ces choses-là dès maintenant, afin que leur mariage soit réellement une bombe qui les propulse vers leur destin. Est-ce que nous sommes ensemble? Quelqu'un me donne un bon amen.
Amen.
Un très bon amen.
Amen.
Un très très bon amen.
Amen.
Alléluia. Alléluia. Dis à un voisin, tu vas quelque part. Amen. Vous savez, les sujets que j'aborde, c'est vrai que ça concerne les mariés, les non-mariés, mais ce sont des sujets de la vie. Même si tu n'as pas l'intention de te marier, ce qu'on dit concerne ton bien-être même, ta vie et ton destin. Donc tu dois manger ce message. Alléluia. Parce que tout qu'on fait, même ceux qui décident d'être célibataires, comme l'apôtre Paul, Paul dit que l'église aussi est comme son épouse. Donc tu peux te marier à ton destin. Le célibat n'est pas une mauvaise... Être single, c'est pas une mauvaise chose. Si quelqu'un est appelé, je l'encourage. Mais si tu n'es pas appelé... Amen, amen. Alléluia. Alors, dans ce cheminement-là, pour aller vers le destin avec le mariage, nous avons cité plusieurs dispositions d'avant-mariage. La première disposition, c'est celle-là que nous avons achevée maintenant, c'est le face-à-face ou le seul-à-seul avec Dieu. Seul-à-seul qui parle d'un temps d'intimité avec le Seigneur qui doit produire dans votre vie certaines choses, certains fruits. Si vous ne voyez pas les fruits du seul à seul dans votre couple actuel, ça veut dire que vous avez manqué cette saison avant de vous marier. Comme la plupart, ne croyez pas que vous êtes les seuls, hein, la plupart des gens, ok? Donc, vous devez simplement racheter le temps et vous allez commencer à avoir une nette amélioration de votre vie conjugale. Et depuis que j'ai commencé à enseigner cela, j'ai déjà de nombreux témoignages de ce que certains couples sont en train de voir, ceux qui appliquent le message. Amen? Amen. Si vous n'êtes pas encore marié, le seul à seul va vous aider. Maintenant, la deuxième grande disposition. Parce que le seul à seul, on a fini avec le profond sommeil. Alléluia. Ou on est seul à seul avec Dieu, Dieu nous fait dormir. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est venu me dire la dernière fois, il dit, pasteur, ah, le profond sommeil là, vraiment, moi il me faut un somnifère. Je dis comment? Il dit, non pasteur, je n'arrive pas à dormir. Le profond sommeil est le moment où c'est le moment de confiance dans le Seigneur. C'est le moment où vous mettez votre confiance en Dieu. Parce que pour créer Ève, Dieu a fait endormir Adam d'un profond sommeil. Et pendant son sommeil, il lui a suscité une côte. De nos jours aussi pour le mariage, ce n'est pas que tu vas aller faire un sommeil de 48 heures dans ta chambre physique. C'est un sommeil spirituel. Le sommeil spirituel se traduit le moment où tu t'abandonnes entre les mains du Seigneur. Où tu as confiance en Dieu. Alléluia. Celui qui n'est pas dans le profond sommeil est celui qui a l'air très alerte, qui veut contrôler tout, qui pense qu'il peut tout voir. Ce sont des personnes qui, pour ceux qui sont mariés, ce sont des personnes qui sont mariées, mais qui voient tout. Tout ce que leur mari fait, la dame, elle voit, elle parle. Le monsieur aussi, il parle. Tu es en train de prier pour que Dieu te donne un nouveau foyer. Passe par le profond sommeil. Crois en Dieu. Abandonne-toi en ses mains. Ne parle plus. Laisse Dieu agir. Alléluia. Aie confiance dans le Seigneur. C'est cela le profond sommeil. Le profond sommeil, c'est cette étape de confiance que vous mettez dans le Seigneur, même avant votre mariage. Et lorsque Adam va se réveiller du profond sommeil, donc je rappelle que toutes les étapes entre le moment où Dieu dit en Genèse 2, 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul, jusqu'à ce que Adam rencontre Ève et se marie, toutes ces étapes-là sont des étapes en fait spirituelles que la Bible a mentionnées, qui signifient des choses très importantes dans notre vie de tous les jours. Ce message, Genèse chapitre 2, à partir du verset 18, est applicable à nous aujourd'hui. Il faut savoir simplement décoder le message du Seigneur. Alléluia. Et c'est ce que Dieu nous a donné la grâce de faire pendant ce temps. Donc, lorsque Adam s'est réveillé de son profond sommeil, Adam voit une dame. Je suppose que lui, Adam, il n'a pas su que on l'avait frappé, que Dieu l'avait endormi. En tout cas, il se réveille et puis il voit une dame. Et puis il dit, ah, cette fois-ci, dis avec moi cette fois-ci. Voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Et il dit, on l'appellera femme. Parce qu'elle est sortie de moi, elle était prise de moi. Amen. Ah, il faut le dire. Elle a été prise. Il a été pris. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, Adam reconnaît Ève. Et pourquoi il utilise l'expression cette fois? Il utilise l'expression cette fois parce que juste avant que Dieu le plonge dans le profond sommeil, Dieu avait amené vers Adam des animaux à qui il était censé donner des noms. Genèse 2:18, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand Dieu dit cette phrase, Dieu amène des animaux vers Adam. Verset 19, il dit, donne-leur des noms. Adam commence à donner des noms. À la fin de la nomination, il dit, je n'ai trouvé aucun parmi ces animaux-là, je n'ai trouvé aucun qui soit mon semblable. On comprend donc qu'en donnant des noms, il ne s'agissait pas seulement d'identifier, de donner des simples noms, mais Adam était en train de chercher sa femme. Parce que la phrase qu'il prononce à la fin de la nomination est celle-ci, je ne trouve aucun qui soit mon semblable. Et Dieu le plonge dans le profond sommeil. Et lorsque Adam se réveille et qu'il voit Ève, il dit cette fois. Ça veut dire qu'il y a eu d'autres fois. Il dit cette fois, voilà celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Voici donc la deuxième grande étape qu'il faut racheter. C'est laquelle? C'est la reconnaissance. Dis avec moi la reconnaissance. La reconnaissance. Alléluia. La reconnaissance, c'est le fait d'arriver à reconnaître la personne qui vous est assortie. Parce que dans une autre version, on a lu, le Seigneur dit, il dit, je lui ferai une aide qui lui soit assortie. Le mot semblable, je lui ferai une aide semblable. On peut le traduire en disant, je lui ferai une aide assortie. Donc, comment je peux retrouver l'aide qui m'est assortie? C'est cela la notion de reconnaissance. T'as avec moi la reconnaissance. Ce n'est pas le mot reconnaissant dans le sens de merci. C'est le mot reconnaissance dans le sens de connaître. Alléluia. Comment, dans toutes les personnes qu'il y a autour de moi, je peux dire clairement, lui-là ou celle-là, c'est la personne qui m'est assortie. Comment le dire sans se tromper? Alléluia. Alléluia. Si aujourd'hui, tu te rends compte que ton mari et toi, ça ne va pas, votre couple, ça ne va pas, c'est que tu sais que tu as raté l'épisode de la reconnaissance. C'est-à-dire, tu dis, lui-là, c'est lui qu'il me faut. Celle-là, c'est celle-là exactement qu'il me faut. Mais maintenant, vous battez à la maison. Vous voulez même presque, quelquefois même, vous tuer. Alors, on se pose la question, mais tu es sûr, est-ce que tu as reconnu? Qu'est-ce qui s'est trompé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as manqué l'étape de la reconnaissance. Alléluia. Maintenant, si je suis marié, que je me constate que j'ai manqué la période de la reconnaissance, c'est-à-dire que je me suis trompé, j'ai mal reconnu, est-ce que je dois arrêter ma relation? Non. Mais tu me dis, mais pasteur, je constate que je me suis trompé. Le gars qui est là, nous ne sommes pas assortis. Alors, pas du tout. Alléluia. Alléluia. Effectivement, tu n'es pas assorti. Est-ce qu'on me suit bien? Quelqu'un est avec moi? Tu n'es pas assorti avec ta femme actuelle. Tu n'es pas assorti avec ton homme actuel. Mais vous êtes mariés. Le maire a fini de parler. Vous vous êtes dit, à la mairie, tous les jours sur cette terre, je serai avec toi. On dit, monsieur, est-ce que vous êtes prêt? Tant, tout ce que vous pouvez imaginer. Tu as crié oui, toute la salle a résonné. On dit, non, il est trop déterminé. On a demandé à la femme, elle était contente. Veux-tu épouser monsieur tant et passer avec lui tout le reste de ta vie, hein, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Pour la mort, elle n'est même pas arrivée. Vous dites, non, déjà, nous nous séparons. Mais là, la parole que tu as dite là, tu étais ému même. Nous sommes ensemble. Le maire te pose la question. Le pasteur t'a posé la question. Veux-tu le prendre pour époux? Oui. Es-tu prêt à rester avec lui jusqu'à ce que la mort vous sépare? La mort n'est pas arrivée. Vous, c'est l'argent qui vous a séparé. Peut-être qu'on demandait, êtes-vous prêt à rester mal? Mais tout ça, on le dit. Si même il y a des difficultés financières, est-ce que vous allez rester ensemble? Oui. Donc, la plupart des personnes sont convaincues au départ. Et plus tard, en fait, elles découvrent, lorsqu'on est dans ce cas, et qu'on découvre après qu'on n'est pas compatible, doit-on se séparer? Non. Tout simplement parce que Dieu ne se contredit pas. Et le oui d'une personne doit être un oui. Dieu ne se contredit pas. Parce que Dieu dit, sauf pour cause d'infidélité, on ne peut pas divorcer. Ça veut dire que il est capable, lui Dieu, de régler tout problème conjugal. Et Dieu le peut. Il ne va pas te laisser malheureuse. Il a le pouvoir. Parce qu'il ne va pas te coincer volontairement. Tu as fait une erreur. Mais il est ton père. Et il sait très bien que si tu renies ton oui, Satan aura un droit sur ta vie. Parce qu'il y a une loi éternelle que Dieu a établie. C'est qu'une alliance ne se brise pas. Lorsqu'on dit le diable vient réclamer une personne, en fait, le diable s'appuie sur le fait que tu n'as pas respecté une loi divine. Regardez, si un enfant se jette du toit, Dieu ne veut pas que l'enfant meure. Mais il y a une loi que Dieu a établie qu'on appelle la loi de l'apesanteur. L'enfant va tomber, il va mourir. On va pleurer, mais il y a une loi qui n'a pas été respectée. Les parents ont dû veiller sur l'enfant. Dieu respecte ses lois. Et le diable s'en sert. Maintenant, d'où viennent les miracles? Il y a ce qu'on appelle des faveurs de grâce. J'ai donné un enseignement qui s'appelle l'atmosphère du miracle. Mais celui qui intercède ou qui recherche le miracle ou qui recherche une intervention doit connaître d'abord la loi. Il ne peut pas avoir un bon avocat si cet avocat-là ne connaît pas les règles. Il ne s'agit pas de se retrouver devant le juge et puis dire pardon, je suis fatigué, pardon. Non, ça ne marche pas. On dit la dame a fait ça, elle doit à ce monsieur. On dit pardon, tout ce que demande monsieur le juge, pardon. On dit non, la loi. Tu vas payer. Mais si l'avocat connaît les règles, il peut trouver des failles. C'est ce qu'on appelle. L'intercesseur, c'est celui qui connaît les lois de Dieu. Et qui trouve dans la parole parce qu'il y a des recours. Et c'est là que c'est dans ces éléments de recours quand interviennent les miracles. C'est par rapport à ces éléments-là que Jésus fonctionnait. Jésus n'a jamais désobéi à la loi de Dieu. Mais il connaissait la parole. Alléluia. Alléluia. Donc le mariage est un lien indissoluble. On ne peut pas le casser. C'est une alliance trop importante. C'est pourquoi il faut faire attention avant de se marier. Maintenant, lorsqu'on est marié, on ne peut pas. Sauf les conditions que le Seigneur a citées, qui sont des conditions qui, elles, brisent l'alliance en dehors de celle-là. Même si vous partez devant le juge, vous êtes marié, devant Dieu. Même si le juge prononce, Satan peut toujours passer par ce lien-là pour t'attaquer, pour bloquer tout mariage futur. C'est-à-dire quand tu veux te marier, tu as fini de divorcer, non? Tu dis maintenant, Seigneur, je veux une autre personne. Il dit non, elle n'a pas droit. Tu dis, mais pourquoi elle n'a pas droit? Il faut la laisser. Il dit non, elle n'a pas droit. Pourquoi? Parce qu'elle est mariée. Mais ça fait 40 ans qu'elle a divorcé. Hein? Voilà les raisons pour lesquelles ils se sont séparés devant le juge. Il n'y a aucune qui est dans la loi de Dieu. Donc, leur alliance
est tenace. Et on prend acte. Pour les singles, dans le lancement des singles, j'ai expliqué, et puis on a intercédé pour gérer les situations compliquées. Amen, amen. Bref, tout ce qui est divorce, remariage, je traiterai ça une prochaine fois. C'est pas ça le but du message. Alléluia. Il y a un espoir envers le Seigneur. Rien, Dieu sait faire certaines choses, mais il faut savoir ce qu'il fait. Alléluia. Donc, si Dieu ne veut pas que je ne sais pas, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Il te dit, la personne que tu as devant toi. Et mes amis, c'est ça la reconnaissance. La reconnaissance, je peux la définir encore autrement. C'est l'acte par lequel deux personnes deviennent compatibles. La reconnaissance dans le sens que la femme reconnaît, l'homme reconnaît qu'à un moment donné, vous devenez assorti. Or, au début de votre mariage, vous n'étiez pas assorti. Donc, une fois que l'alliance du mariage a été tissée, Dieu va faire quelque chose. Il a un autre miracle qu'il a prévu dans sa parole. Quelqu'un dit amen. C'est ce qu'il appelle le miracle de la nouvelle création. Le miracle de la nouvelle création. Là, ceux qui tiennent à tout prix à se séparer ne vont pas aimer cette partie. Mais c'est comme ça. Le miracle de la nouvelle création. Le miracle de la nouvelle création dit que l'enveloppe d'une personne n'est pas la personne. Le même monsieur Gasparien que tu veux laisser là, Dieu peut l'amener à devenir une nouvelle créature. Dis avec moi, nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17 dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dis avec moi, nouvelle créature. Nouvelle créature, ça veut dire créature qui n'a pas encore existé. Ça veut dire, si quelqu'un est en Christ, le Gasparien là, avant Christ et après Christ, c'est pas la même personne. Dieu fera du Gasparien un être nouveau. Et l'être nouveau qu'il va faire dans le cadre de ton mariage, toi et lui, vous serez assortis. Dieu peut faire le miracle dans votre foyer. Je reviendrai là-dessus. Mais c'est important. C'est pourquoi l'acte de reconnaissance, le principe de la reconnaissance est utilisable même dans le foyer. Même dans un foyer qui ne va pas. Et si vous sentez que vous n'êtes pas compatible en ce moment, il faut racheter la période de reconnaissance. Alléluia. Si vous êtes libre, vous voulez vous marier à nouveau, il faut vous préparer, il faut connaître les principes de reconnaissance pour éviter de vous tromper. Ou si vous êtes séparé, vous allez entreprendre un nouveau mariage, il faut connaître le principe pour faire le bon choix. Dis avec moi la reconnaissance. La reconnaissance. Alléluia. Alléluia. Quand la Bible dit l'homme est une nouvelle création, pourquoi l'homme est une, Dieu peut faire de quelqu'un une nouvelle créature? Vous savez, le corps humain, l'homme n'est pas... Ou bien, ta vraie personnalité, ce n'est pas la chair qu'on voit là. Ton corps est une enveloppe. Suivez-moi très bien. Le corps que tu as là, les yeux, sont une enveloppe. C'est comme une chemise que tu portes. C'est comme un vêtement. Ta vraie personnalité, le vrai toi, est un esprit. Tu es un esprit. Touche un voisin, bouscule un peu, dis tu es un esprit. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. Amen. Non, je ne vous sens pas trop. Un bon amen. Amen. Dis à un voisin, tu es un esprit. Voilà. Pour comprendre la reconnaissance, là ce sont les préalables de la reconnaissance. Pour connaître la reconnaissance, il faut que vous compreniez que vous êtes des esprits. L'homme est un esprit et le corps est un vêtement ou une habitation mobile. Parce que ça bouge. Comme ta maison ne bouge pas, mais ton corps se déplace. Mais tu es un esprit qui habite dans un corps. Regarde ton petit esprit. Là, il n'est pas trop d'accord. Il va dire, mon frère, je ne suis pas un démon. Je suis un bon esprit. C'est un bon esprit, hein, ce n'est pas un démon. Ok. Alors, je donne quelquefois des exemples simples pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Regardez comme ça. Si je dis que nous sommes une enveloppe, le corps est une enveloppe, je suppose que l'esprit s'en sert. Regardez comme ça, la vision. Vous savez, il y a les orbites de mes yeux là, les yeux. Ce ne sont pas les yeux qui voient. La réalité, c'est vous qui regardez à travers la fenêtre de vos yeux. Les yeux que je touche là sont une fenêtre. Et vous êtes un esprit derrière la fenêtre. Et vous regardez au travers des yeux. La preuve, c'est qu'il peut arriver que quelqu'un se tienne devant vos yeux et parle avec vous. Et vous n'allez pas la voir. Ça vous est jamais arrivé? C'est-à-dire, le monsieur est là, il est là. Oh, tu sais, j'étais là. Mais si ton esprit est ailleurs, tout ce qu'il fait, tu ne le vois pas. Or, tes yeux physiques le regardent. Mais si ton esprit est en train de penser à autre chose, il peut faire des gestes, il peut te montrer des images. Tes yeux sont là, bien ouverts. Et quand ton esprit va revenir, tu as dit, mon frère, tu m'as montré quoi là? Va dire, mais tu ne me voyais pas. Mais tu n'étais pas là, mon ami. Là, tu n'étais pas là. C'est ton corps qui était là. Ton esprit n'était plus là. Ton esprit était à la maison en train de résoudre un problème. C'est l'esprit qui voit au travers des yeux. Ce ne sont pas les yeux qui voient. Quelqu'un me suit? Donne-moi un bon amen. L'homme est un esprit. Il suffit que la pensée de l'homme soit connectée à autre chose, que les cinq sens ne fonctionnent pas. Quelqu'un peut être en train de parler, tu peux être même dans la salle en train d'écouter le message. Mais si ton esprit est ailleurs, tu entends plein les phrases que je... Le son arrive, c'est très distinct. Tu dis, ah mais tu es en train de penser, est-ce que j'ai fermé la porte même en venant? Ah là 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 là. Et on dirait que j'ai laissé le feu allumé sur... Donc, quand tu penses à ça, là, tout ce que je vais dire, tu ne vas pas entendre. Tu peux être là. Frère Gaspard, tu sais, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. On t'entendait passer. André, j'ai pas fermé ma porte à clé. Et en ce moment, Abidjan n'est pas sécurisé. La 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 la. Et je peux te toucher. Gaspard, tu dis, mon gars, excuse-moi. Tu dis quoi? Je n'étais pas là. Tu étais où? À la maison. Dans tes pensées. Ça veut dire que ce sont tes pensées qui gèrent. Ce sont tes pensées qui travaillent. Ce sont tes pensées qui entendent. Ce sont tes pensées qui regardent. Ce sont tes pensées qui touchent. Quand tes pensées ne sont pas, quelqu'un peut te toucher sans que tu saches qu'il t'a touché. Quelqu'un est-il avec moi? Donc, dis à quelqu'un, esprit. Alléluia. Alléluia. On est d'accord, non? C'est pas compliqué, la vie est simple. Amen. Alléluia. Et je le montre souvent, je dis, la Bible dit, Genèse chapitre 1, Dieu a créé l'homme à son image. Genèse chapitre 2, Dieu a formé l'homme de la poussière. C'est pas pareil. Créer et former, c'est deux mots différents. Genèse 1, Dieu crée l'homme à son image. Dieu est un esprit, l'homme est d'abord un esprit. Quelque temps après, on ne sait pas combien de temps, Dieu prend la poussière et il forme. Former, c'est donner une forme à une chose qui existe. À partir de la poussière. Donc, la poussière qui a fait la chair est une forme, mais c'est pas l'homme. C'est une forme qu'on a donnée à l'homme, mais l'homme est un esprit. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je dis toutes ces choses-là? Parce que ça nous explique la reconnaissance. Amen, amen, amen. Donnez-moi un bon amen. Adam voit Ève et il dit ceci. Cette fois, voilà celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de moi. Donc, je vous ai parlé du principe de la reconnaissance valable dans le foyer, valable dans la vie de ceux qui ne sont pas encore mariés, valable même pour ceux qui n'ont pas l'intention de se marier. C'est très important. Le principe de la reconnaissance, vous allez voir, il est vrai dans les affaires. Toute personne avec laquelle vous voulez travailler, le principe de la reconnaissance est toujours valable. Il sert dans toute la vie. Amen. C'est juste reconnaître, l'art de reconnaître si une personne est compatible avec vous pour faire quoi que ce soit. Ça tient aussi pour le mariage. Alléluia. Alléluia. Alors donc, Adam dit os de mes os. Dis avec moi, os de mes os. Chair de ma chair. Encore, os de mes os. Chair de ma chair. Je l'ai déjà dit, je le redis encore. Ces deux expressions, os de mes os et chair de ma chair, ont un sens précis. Ce n'est pas une formulation bizarre qu'Adam a dû prononcer. Il était en train de dire quelque chose. Il dit, quand il dit os, donc il parle des os de Ève, de mes os, il dit que nos os sont compatibles. Et il dit chair de ma chair. Et il dit après maintenant, notre chair est compatible. Mais la façon dont Adam prononce la succession de ces deux mots traduit une notion importante. Adam ne dit pas chair de ma chair avant de dire os de mes os. C'est toujours os de mes os avant chair de ma chair. Lors votre mariage est sur le point d'échouer. Parce que, ou, même s'il ne va pas échouer, vous êtes sur le point d'avoir de sérieux problèmes de mariage parce que vous avez reconnu l'homme ou la femme que vous voulez épouser avec ce mot-là. Vous avez dit chair de ma chair avant os de mes os. Erreur fatale. On dit os de mes os d'abord. Dis un voisin, il faut dire os. Avant chair. Dans la vie réelle, on voit la chair, on mange la chair avant de manger les os. Mais dans l'esprit, parce que l'homme est un esprit, on mange les os. Bon, c'est une manière de parler, hein? Il n'y a rien à manger ici. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Donc Adam dit os de mes os avant de dire chair de ma chair. Et c'est très important. Os des os, c'est quoi? L'os des os, il est en train de parler de l'être intérieur. Les os ne sont pas, sont une partie du corps humain qui n'est pas visible. Tout homme vivant n'a pas ses os dehors. Vous comprenez, non? Voilà. Un homme normal. Les os, bon, même s'il est maigre, on voit quand même la chair avant les os. Ok? Les os sont à l'intérieur. Donc Adam voit l'intérieur de Ève avant de juger sa partie visible. Chair de ma chair, c'est tout ce qu'on voit. Le corps physique, il dit là. Donc, il dit, cette femme-là, elle m'est semblable parce que mon être intérieur correspond à son être intérieur. Elle m'est semblable parce que après maintenant, mon être extérieur est compatible avec son être extérieur. Il commence toujours par l'intérieur avant de revenir à l'extérieur. Les mariages échouent dans la reconnaissance parce que la majorité des hommes juge ce qui frappe les yeux avant de chercher l'intérieur. Il se marie sur la base de chair de ma chair. Et c'est dans le mariage qu'il voit maintenant les os de l'autre. On dit, hein? Tes os sont bizarres, mon cher ami. Tu vas comprendre de quoi je parle. Alléluia. Mais dans la vérité, c'est que les os ne sont pas, quand la Bible dit os, c'est pas le squelette. Laisse tranquille ton squelette, parce que c'est pas de ça qu'il parle. Mais il est plutôt question de l'esprit. Il est plutôt question de l'esprit. L'homme est un esprit. Adam dit, mon esprit et son esprit sont compatibles. Avant de dire, je me sens bien, ou bien je me sens compatible avec son corps physique. Chair de ma chair traduit pour une personne tout ce qui est visible. Os des os traduit pour une personne toute la personnalité invisible. Autrement dit, la vraie personnalité, car l'homme est un esprit. Alléluia. Ça ne veut pas dire que la chair n'est pas jetable, négligeable, mais elle n'est pas prioritaire. Ce n'est pas elle qui détermine. Comment est-ce que des gens se marient sur la base de la chair? C'est sur la base de tout ce qu'ils voient. Par exemple, se marier sous, comment dit souvent, le coup de foudre, parce que tu vois le monsieur, on dit voilà, ouh, cette fille-là, elle me plaît. On dit pourquoi? Oh, j'aime son cou, j'aime les longs coups là. Oh, quand je vois une fille qui a un long cou, moi je veux marier un long cou, mon frère. Tu vas avoir des problèmes. Tu es en train de dire, chair de ma chair, son cou me plaît. J'aime les filles, mais ça, quand je vois, oh, moi ce qui me plaît, ce sont les jambes, mon frère, les jambes, les mains, les doigts, tout ça là. C'est chair de la chair. Oh, moi les hommes, ma chère, moi non, mon mari, il doit être un mec grand. Je n'aime pas trop les gens qui ne sont pas trop grands là. Les gens, un mec grand. Quand il marche, sa démarche élégante comme ça, là. Ouh. Donc, quand tu arrives à l'église, tu es en train de prier, tu vois le frère qui rentre. Et, exact, c'est ça. Et ce que tu prononces, c'est quoi? Chair de ma chair. Ah,
si tu t'es marié avec ce monsieur, il y aura problème.
Moi, j'aime les mecs qui aiment porter les chemises. J'aime qui aiment les boubous, quand ils sont en boubous comme ça. Tout ça, cher de ma chair. On ne se marie pas avec ça. Et tout ce qui est coup de foudre, où on tombe amoureux ou amoureuse, c'est cher de la chair. C'est le style, sa manière de parler. Tu dis, moi, peu importe la taille, mais la voix. J'aime les gens qui ont des voix. Oh, quand ils parlent. Oh,
ma poupée.
Donc, elle dit, quand j'entends sa voix, je peux mourir. Ma soeur, ça, c'est cher de ma chair. Sa voix peut me tuer.
Alléluia.
Chair de la chair aussi, c'est pas peut-être, y a tout, chair de la chair. Il y a d'autres personnes aussi. C'est tout ce qui est visible. Ça peut être l'apparence matérielle de la personne. Tout ça, c'est du visible. Quand je le vois, non, moi, il me faut un mec qui a l'argent. Parce qu'en ce moment-là, ma soeur, la vie est dure. Il faut prendre quelqu'un qui a su. Donc, quand ta copine vient te dire, j'ai vu quelqu'un, tu dis, est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il a su? C'est ça. Fabien, faut pas te marier à n'importe qui. Hein? Donc, alors, dès que tu regardes, tu vois un mec qui descend, belle voiture, une fois qu'il n'y a pas d'alliance sur le doigt, en même temps, tu es amoureuse. Et si le Francis pouvait me regarder, il pouvait me regarder. Et tu vas faire tout, comme on a avancé ici, pour voir dans quelle tribu il est, rentrer dans sa tribu. Tout ça, c'est cher de ma chair. Ça ne peut pas constituer un mariage. On ne se marie pas sous ce critère. La réalité, c'est que lorsque vous rentrez dans le foyer, c'est là que vous découvrez les eaux. Parce que ce qui fait le mariage, ce n'est pas la chair. Le monsieur, tu l'as marié à cause de son argent. Mais tu arrives, tu te rends compte qu'il est méchant même. Ça, ça ne se voyait pas. Ce sont les eaux. Son esprit est méchant. Tu vois, le monsieur, il a l'argent, tout le monde l'apprécie. Si c'est pour montrer qu'il a de l'argent, il le fait devant tout le monde. Mais à la maison, chérie, donne-moi 1000 francs, je vais aller. Ah, tu gaspilles l'argent. Tu aimes trop l'argent, c'est quelle femme ça? Et te voilà maintenant. Là, tu es en train de découvrir maintenant les os. Tu t'étais marié avec la chair, mais les os étaient secs. Ils étaient méchants. Et qu'est-ce qui va te faire vivre dans ton foyer? Ce sont les os. Ce qui fait vivre, c'est la vraie personnalité. C'est avec ça qu'on vit tout le temps. La chair, la beauté physique de la dame, là, ça va passer devant tes yeux. Et tu vas découvrir maintenant, tu vas te dire que la fille, là, elle brille comme ça de l'extérieur, mais à l'intérieur, là, c'est une tigresse. Elle dit, chérie, tu lui demandes, chérie, fais-moi un peu mon plat. Parce qu'avant le mariage, elle te présentait une bonne chair de la chair. Comme elle était amoureuse, elle veut se marier avec toi. Quel est ton plat préféré? Oh, tu sais, moi, j'aime un peu de riz gras, bien fait avec du bon poisson, un bon tchèp là. Elle t'amène ça tout le temps. Quand vous allez vous marier, parce que ça, la chair, on peut la transformer pour attirer. Mais une fois à l'intérieur, si ses os n'ont pas été transformés, tu vas découvrir, elle n'est pas serviable. Et c'est ça que tu vas vivre. Tout le monde apprécie sa beauté extérieure. Mais son cœur est en train de te détruire. Et c'est ça que tu vis, les os. On ne vit pas avec la chair, on vit avec les os. Dans un mariage, ce sont les os qui font le mariage, ce n'est pas la chair. C'est pourquoi on dit toujours, os de mes os, chair de ma chair. Dis avec moi, os des os. Chair de ma chair. Alléluia. Alléluia. Demande-moi comment. Comment peut-on voir ce qui est invisible? Bon, bien sûr, je ne dirai pas tout aujourd'hui. Il faut que vous ayez soif pour dimanche prochain. Parce que là, je vais vraiment révéler les clés de la reconnaissance. Alléluia. Alléluia. Mais il faut comprendre le principe. Il faut que vous sachiez que c'est important. Alors, je me suis marié, j'ai fait une erreur, je me découvre que, attention, nos zones ne sont pas compatibles. Mon être intérieur va pas être son être intérieur. On n'est pas compatibles, on ne va pas ensemble. Est-ce que je dois abandonner? Non. Dieu est celui qui fait les nouvelles créations. Dieu est capable, et il va le faire, à condition que toi-même tu transformes tes eaux. Alléluia. Alléluia. 1 Pierre chapitre 3. Il le dit. Si tes eaux sont transformées, quand tu es déjà marié, ton conjoint n'a pas d'autre choix. Dieu étend son bras puissant et il amène le monsieur que tu n'appréciais pas, la femme que tu n'appréciais pas, parce que tu viens de par erreur, ça arrive à des hommes. Tu as découvert ses eaux trop tard. Vous avez déjà 4 enfants. Et maintenant, vous voyez vos os. Et voyant vos os, on dit, ah, ça là, vraiment, dois-je continuer à souffrir, Seigneur? Il dit, non. Non. Cet être-là peut être transformé. Parce qu'un esprit, je le change. L'enveloppe physique ne va pas changer. Ce n'est pas important. Parce que ce n'est pas ça qui est important. Même quand tu transformes l'enveloppe physique, le corps après change. Je vous assure. La manière d'être, les comportements et les gestes changent. 1 Pierre chapitre 3, verset 1, ici il parle du côté de la femme. Mais le principe est vrai aussi pour les hommes. Je dirai plus tard qu'est-ce que les hommes ont à faire. Mais ici, Pierre dit, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, il soit gagné sans parole. » Dis avec moi, sans parole. Il dit, « Sont gagnés par quoi ? » ?»« Par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre, chaste et réservé. » Et puis maintenant il continue. C'est qu'est-ce qu'il appelle chaste et réservé? La femme, verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Verset 4. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas ça à l'écran. Mais je reprends pour que vous suivez. Donc, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. L'apôtre Pierre ici donne une clé essentielle. Il dit, il se peut que votre conjoint ne fasse pas ce qu'il aurait dû faire. Malgré les conseils que vous lui donnez, chérie, il faut changer, il faut rentrer tôt. Parle-moi doucement, parle avec moi attention, parle-moi avec attention, je suis une femme. Pourquoi tu es brutale comme ça? Tu dis à ta femme, chérie, tout ce que je te demande, c'est le calme. Quand je parle, faut m'écouter, tu ne m'écoutes pas, tu fais les choses dans ta tête, tu me fatigues. Voilà. Toutes ces choses-là. Dieu dit, si le conjoint n'obéit pas à la parole, amenez-le à être gagné sans parole. Parce qu'il y a une voix qui parle plus fortement que votre voix audible. C'est la voix des eaux, la voix de l'être intérieur. Elle est puissante. C'est elle qui change les gens. Un homme ne change pas parce que tu lui dis, chérie, rentre tôt. Quand tu rentres à 23h, ça me fatigue. Et à cause de 23h, tu veux le quitter. On va appeler la famille, les parents, vous allez venir régler le conflit. Ta femme te demande quoi? De rentrer à 23h, de rentrer à 18h. Bon, 18h c'est trop tôt. On va dire de rentrer à 20h après le travail. Il va dire, j'ai compris. J'ai compris. C'est le corps qu'il va changer. Il va changer ses horaires d'entrée pendant 3 semaines. Mais c'est que quand il a fini le travail, il aime aller causer avec ses amis. Ça est en lui. Il va se concentrer un moment pour ne plus le faire avec toi. Mais ça va revenir. Et à 2 semaines plus tard, au lieu de rentrer à 20h, il va rentrer à 20h30. Tu as dit, oh. Après 20h45. 21h. Il va dire, non, je venais, il y a eu trop d'embouteillage. De bouchons. Après, il repart à les 22h, les 23h, les 1h du matin. Pourquoi? L'être intérieur n'a pas changé. Il dit, si vous parlez et que le conjoint n'obéit pas à la parole, gagnez-le sans parole. Il veut dire que, il dit, maintenant, revêtez-vous de la parure intérieure. Et puis, il parle d'un cœur doux, paisible, d'un esprit. Donc là, quand on parle d'esprit et de cœur, on parle des os. Il dit, gagnez-le, ou encore, parlez-lui avec le cœur, avec votre esprit. Le langage des os est plus puissant que le langage de la langue. Il rentre dans le cœur de quelqu'un. Et puis, il amène une personne à se soumettre à Dieu. Il change. Donc, il dit, avant de changer votre mari, vous-même faites en sorte que vos os soient brillants, respectueux, honorables. Alléluia. 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 Je reviendrai sur ce sujet lorsque j'aborderai, je rentrerai même concrètement dans le foyer. Amen. Pour le moment, nous sommes dans les éléments qui préparent. Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi, os de mes os. Chair de ma chair. Os de mes os. Chair de ma chair. Alléluia. Donc, pour revenir à la reconnaissance, elle est d'abord intérieure. Et qu'est-ce qu'on cherche à l'intérieur? Voilà ce que la Bible dit d'abord. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Là, vous l'avez à l'écran. 1 Samuel 16, 7. Voilà comment Dieu fait son choix. Dieu dit, les hommes ont une tendance à regarder l'extérieur, mais Dieu choisit en regardant le cœur. Autrement dit, les os, l'esprit, la pensée des personnes. Quelqu'un me suit? Alléluia. Le profond sommeil dont on a parlé la semaine dernière, en fait, c'est le moment où vous permettez à Dieu de commencer à pouvoir dire ce que lui, il voit à l'intérieur. Parce que l'homme ne sait pas juger l'intérieur. Il sait pas. Même quelqu'un qui semble spirituel, c'est aussi chair de la chair. Vous ne pouvez pas vous appuyer pour dire... Moi, dans la vie chrétienne, je cherche un frère zélé qui aime Jésus. Comment tu vas faire pour savoir? Tu penses que tous ceux qui ont la Bible... Donc, quand tu veux le voir la Bible, tu vois la Bible dans sa main, il vient à l'église, bien habillé, hein, avec les cols, même André, les pasteurs, tu dis, non, lui, là, c'est un prieur. Et quand tu le vois à l'église, il est à genoux, il prie 4 heures de temps d'affilée. Tu dis, non, voilà un homme qu'on peut marier. Fais attention, ce que tu vois là, c'est chair de la chair. Tout ce qui est visible est chair de la chair. La vie de prière d'une personne, c'est la chair. Je vais te dire, ce sont tes yeux qui constatent. C'est pas ça? Sa vie de jeune. Quelqu'un qui dit qu'il est pasteur, qui dit qu'il est serviteur de Dieu, c'est chair de la chair. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur le fait que quelqu'un prétend être chrétien pour connaître ses os. C'est pas vrai. Tout ce qui est manifeste physiquement fait partie du groupe de la reconnaissance charnelle. Et elle ne peut pas être prise en compte au départ. On ne doit pas les considérer. Je considère, tu ne considères pas l'argent de la personne, tu ne considères pas si elle travaille ou si elle ne travaille pas, tu ne considères pas sa beauté physique, laisse ça tomber d'abord. Toutes ces choses-là, ça ne va même pas être dans tes premiers critères de notation. Tu dois dire os des os d'abord, il y a un autre critère. Et puis après, tu vas regarder le visage. Alléluia. Tu vas regarder si la personne travaille. Ça, c'est la disposition 3. Amen. Amen, amen, amen. Quelqu'un est-il avec moi? Donc, Dieu ne regarde pas l'apparence. Samuel a failli choisir des personnes qui ressemblaient à la royauté. Mais Dieu dit non. Moi, je regarde le cœur. Proverbe 3, 31, verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté physique est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut discerner? Genèse chapitre 24. Genèse, le chapitre 24. Compte tenu du temps, je ne vais pas lire. On peut lire depuis le verset 1, mais on ne va pas lire depuis le verset 1. J'espère que la projection a corrigé. Au premier culte, j'avais fait. Il y avait une partie des versets que j'avais omis sur les écrans. Bon, pour nous, en tout cas, si vous prenez le verset 11, à partir du verset 11, mais on va commencer même Bon, on va lire le verset 1 pour savoir de quoi il s'agit. Et puis on va après sauter aller au verset 10. Verset 1 de Genèse 24, il est dit, Abraham était vieux avancé en âge et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » Amen. Donc vous convenez avec moi, c'est une affaire de mariage ici. Donc Abraham cherche à choisir la femme qui est assortie à Isaac. Il a une première directive. Il doit aller chercher la femme dans un territoire donné. On l'expliquera une prochaine fois. Amen. Quand je parlerai des critères. Et puis nous sautons, nous partons au verset 10. Le serviteur, donc il partait chercher la femme, prit 10 chameaux. Dis avec moi 10 chameaux. Il dit, il prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur. Et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie à la ville de Nakhor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, l'Éternel Dieu de mon seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et use de bonté envers mon seigneur Abraham. Alléluia. Le verset 12 traduit l'étape du profond sommeil dans ce cas-ci. Le serviteur, est-ce qu'on est sommes ensemble? Amen. S'abandonne pour faire le choix, pour reconnaître la femme idéale. Il s'abandonne dans les mains du Seigneur. Il dit, mon Dieu, fais-moi rencontrer celle que je dois rencontrer aujourd'hui. Moi, je ne sais pas la rencontrer. Donc vous voyez, il ne se lève pas par lui-même pour dire, je vais aller chercher dans l'église qui est compatible. Il y a le moment d'abord du profond sommeil. Le profond sommeil, c'est le moment où on a confiance en Dieu. On sait que Dieu est capable de nous faire rencontrer la personne. Alléluia. Certains n'entrent pas dans le profond sommeil en disant ceci, quand je regarde l'église là, je ne vois pas d'où peut sortir mon mari. Mais demande à Dieu. Et mais tu ne demandes pas, tu constates avec tes yeux et tu ne pries pas sincèrement. Tu es en train de calculer, tu vas voyager, tu vas aller par ceci, par cela. Tu fais une erreur. Abandonne-toi entre ses mains. Fais-lui confiance. Dis, Seigneur, donne-moi de rencontrer la personne. Alléluia. Donc, le serviteur s'abandonne, donc entre quelque part dans le profond sommeil, c'est-à-dire l'abandon total dans les mains, entre les mains du Seigneur. Et Dieu, comme il a fait pour Adam, va envoyer la personne idéale. Et cette fois-ci, vous allez voir, je veux que vous notiez d'abord que le père d'Abraham et Isaac avaient éliminé les animaux. Les animaux, c'était les filles des Cananéens. Bon, ceux qui n'ont pas suivi l'enseignement sur les animaux, vous ne pouvez pas comprendre. Ceux qui ont pris en cours, on donne des noms. Il dit, Abraham dit à son fils, non, on ne veut pas marier les filles de ce pays-là. Donc, ils ont compris que sa femme n'était pas dans un environnement. Et puis, ça, c'est la première partie qu'on appelait les nominations. Alléluia. Et après, il sent la région où il doit partir. J'expliquerai cela, le sens spirituel. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la façon dont il va la reconnaître. Voici ce qu'il dit. Le serviteur dit à Dieu que je puisse reconnaître la femme. Et il va donner un signe. Verset 13. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui me répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Alléluia. Quelle est la condition que le monsieur a posée pour reconnaître la femme de Isaac? C'est laquelle? Il dit ceci. Je vais demander aux jeunes filles qui viennent puiser au puits, je vais leur demander à boire. Celle qui va me donner à boire et qui va en même temps donner à boire à mes 10 chameaux. Dis avec moi 10 chameaux. Mon frère, chameau. Et qui va donner à boire à mes chameaux. Il ne dit pas que je vais demander à la fille de donner à boire à mes chameaux. Hein. Il dit, je vais lui demander à boire. Après qu'elle m'ait donné à boire, si elle dit qu'elle va donner à boire à mes chameaux, alors c'est que c'est la femme que tu as choisie.
Alléluia. Alléluia.
J'espère que quelqu'un ne va pas aller faire cette prière-là, parce qu'il n'y a pas de chameaux à Abidjan ici, mon frère. Quelqu'un va dire, la femme à qui je vais demander, donne-moi du carburant pour ma voiture. Ou bien donne-moi de la boîte. Et puis elle me dit, je mettrai du carburant sur ta voiture, bon, mon frère. Fais attention, hein. Ok. Verset 14. Bon, ok. Verset 15, pardon. Au verset 15, il dit, il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nakhor, frère d'Abraham. Regardez, Dieu avait préparé la dame. Dieu prépare votre conjoint avant que vous le rencontriez. Pendant que vous êtes dans le profond sommeil, Dieu, elle dit, il a à peine fait la prière. La fille était là, avec sa cruche. Il est arrivé. Que la jeune fille là qui... Bon, ok, verset 16. C'était une jeune fille, très belle de figure. Ça, c'est chair de la chair. Elle est belle. Mais regardez, le serviteur n'a pas demandé, je veux une belle fille. Ce qu'il a demandé, je lui demande à boire, elle donne à boire à mes chameaux. Il n'a pas dit, la plus belle qui viendra parmi toutes celles qui vont puiser au puits. Parce que si c'était la plus belle, c'était chair de la chair. Alléluia. C'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois mon Seigneur. Ah Dieu. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et lui donna à boire. Quand elle lui a achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Waouh, mon Dieu. Elle s'empressa jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regarda avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Waouh. Non, c'est une femme. Et quand vous voyez là, vous voyez l'être le cœur de quelqu'un. C'est pas la plus belle fille. Il a cherché les os, les qualités intrinsèques, intérieures d'une personne. Le critère extérieur n'était pas là. On va étudier en fait comment ça se fait pour trouver la bonne personne compatible dimanche prochain. Mais là déjà, regardez Rebecca. Elle arrive, exprès, le monsieur s'assoit, il la voit arriver au puits. Pendant qu'elle a commencé à puiser, logiquement, par politesse, sans seulement qu'il devait lui demander à boire. Elle a fini de puiser. Et puis elle est en train de repartir chez elle. Et lui, il la bloque sur le chemin. Il dit, donne-moi ton eau, je vais boire. Quelqu'un aurait dit, attends, tu ne me cherches pas là. J'étais au puits là, quand je prenais. Tu n'avais pas soif. Maintenant, je suis en train d'aller à la maison. Mais il y a des gens à Abidjan ici. Mais tu te prends. Mais vraiment, les gens ne sont pas polis. La Bible dit, elle s'est empressée, elle s'est abaissée. Elle dit, mon Seigneur. Elle s'est abaissée. Et puis elle a versé, faut boire. Quand elle a fini de boire, elle dit, ça va. Il ne lui a rien demandé par rapport au chameau. Parce que la phrase était, moi je lui demande à boire. Elle-même qu'elle propose de donner à boire à mes chameaux. Mes amis, il y en avait 10. Un chameau, ça boit. On m'a dit combien de litres là? 113. Un chameau boit plus de 100 litres. Il y en a 10. Et regardez la phrase. Elle a puisé jusqu'à ce que les chameaux aient assez bu. Sans qu'on le lui demande. C'est-à-dire, ce n'est pas un coup au puits. Hein? Elle puise. Je ne sais pas comment ça... Parce que bon, c'est quand même une jeune fille. Donc, la carafe qu'elle devait soulever, peut-être c'est au plus, c'était 10 litres, un seau d'eau. C'était juste ce qu'elle avait. Elle n'a pas pu prendre ça, plusieurs trucs comme ça, donc elle va le reprendre. Renverser le chameau, premier chameau. 100 fois. Deuxième. Peut-être qu'elle a fait 4 heures. Waouh. C'est-à-dire, lui-même, il s'assied et regarde la fille là. Il dit, je ne lui ai pas demandé de donner à boire à mes chameaux. J'ai dit, moi, je veux boire. Moi, je veux boire. Alléluia. 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 Ce qu'il a recherché, c'était autre chose. Ce que le Seigneur dit, c'est que pour reconnaître cette femme, après vous allez voir, elle-même, elle a reconnu son mari, qui était Isaac. Isaac l'a reconnu. Dans l'Ancien Testament, c'est le plus grand couple. Rebecca et Isaac, c'est le mariage, un des mariages les plus réussis de la Bible. Abraham, c'est un bon exemple, mais à un moment donné, il est parti chez Agar. Isaac, monogame, une seule femme, il a gardé sa femme jusqu'au bout. Ils sont morts dans la vieillesse. C'est ce qu'on appelle un mariage réussi. Il est entré dans son destin. Isaac est devenu 2 à 3 fois plus riche que son père Abraham. Isaac a prophétisé sur Jacob. Cet homme est entré dans son destin. Son mariage est divin. Et le mariage de Isaac est un modèle. Dieu nous a rappelé ce qu'il avait fait avec Adam. Que vous, vous commencez par marier en jugeant les gens de l'extérieur. Moi, je regarde au cœur. La personne qui est éligible n'est pas éligible pour sa forme, pour son argent, pour son matériel. Si vous le faites, vous allez pleurer plus tard. Or, vous n'avez pas accès à l'être intérieur. Vous devez vous confier en moi pour que je vous dise comment reconnaître une personne. La reconnaissance. Si vous êtes déjà marié, madame, peut-être que toi-même tu reconnais que tu n'es même pas comme Rebecca. Donc tu veux que ton mari change. C'est ce que 1 Pierre dit. Commence d'abord par être comme, par rentrer dans cette dimension. Change tes os et quelque chose va changer ton homme. Monsieur, tu penses que tu es dans Christ et que c'est toi qui es bien. Change-toi et elle changera. Vous allez faire maintenant la compatibilité. Si tu n'es pas encore marié, prépare-toi à rencontrer ton homme. Comment tu vas le reconnaître? Par des signes que j'expliquerai dimanche prochain. Comment tu reconnaîtras la personne par des signes? Maintenant, écoutez, je finis avec ça. La personne idéale peut... je veux dire, le choix n'est pas... Dieu te montre quelqu'un, ce n'est pas lui, et puis ce n'est plus lui pour tout le temps. En fait, le choix de Dieu est basé sur l'être intérieur. Quand Dieu reconnaît quelqu'un comme ton conjoint, ce n'est pas ce que son corps... Ce n'est pas son corps, ce que son corps physique présente dans le présent. Quelqu'un que Dieu ne reconnaît pas comme ton homme aujourd'hui peut l'être demain s'il est transformé par Dieu. Parce que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Donc s'il s'appelle Gaspard ou Gasparien, il y a Gasparien avant nouvelle création et il y a Gasparien après. C'est une nouvelle personne. Moi, j'ai eu cela et je tenais ce témoignage avec mon épouse. Dieu a voulu me faire comprendre. Aujourd'hui, je vous ai dit que ce que j'enseigne, c'est ma vie en fait. Que Dieu m'a fait comprendre dans la parole. J'avais beaucoup de zèle. Apparemment, à l'église, les gens m'appréciaient pour ma vie spirituelle, pour mon apparent zèle. Mais à l'intérieur, j'étais brisé. Mes os, mon être intérieur était brisé. Mon être intérieur n'aimait pas. Il s'était endurci. Parce que j'avais souffert de problèmes d'affection. Je ne sais pas dire, je t'aime. Mes os étaient immatures. Mon corps paraissait un homme de Dieu. Mais mes os étaient encore un bébé spirituel. Étaient encore un bébé spirituel. Et je finis le bac. Je rencontre mon épouse aujourd'hui. Quand je la vois, je ressens quelque chose. Presque le coup de foudre, quoi. Mais j'ai bluffé là-dessus. On a laissé tomber. Et puis, après le bac, je prie Dieu. Je dis, mais montre-moi la personne. Il dit, je te dis quelque chose. Est-ce que tu vas pouvoir m'écouter? Et oui. Parce que j'insistais. Il dit, Liliane est celle que tu vas épouser, mais tu n'es pas prêt. Donc, n'entreprends rien. Parce que tu n'es pas encore la personne. Tu n'es pas encore la nouvelle créature que tu dois être.
Moi, j'ai dit, mais si c'est elle, c'est elle. Je marie, je la marie, et puis c'est fini. Après, on va s'échanger en cours de route. Je dis, on vous parle, vous ne comprenez pas. Un homme est un esprit. Si l'esprit n'a pas été renouvelé là, ce n'est pas la même personne. Et j'écoute pas Dieu. Un jour, donc on a connu, on a sympathisé sans être fiancé. Elle a le bac. Elle m'invite avec des amis pour venir faire la fête du bac. Chez sa maman, qui a un restaurant, on est au restaurant, tout ça, on mange bien, on est content. Et à l'entrée du restaurant, on faisait tirer des versets. Elle a mis des versets bibliques que chacun devait tirer. Moi, je viens, je tire mon verset. Dieu m'a parlé avec ce verset-là. Le verset dit, « Je vous en conjure, ne réveillez pas l'amour avant le temps. » Moi, j'étais venu pour commencer à placer mes pions. C'est-à-dire, je la voulais. Donc, je commençais les premières démarches stratégiques. Et je tombe sur un verset au culte. J'arrive pas au culte, à la fête là. Il y avait des versets bibliques. Je tombe cantique des cantiques. Ne réveillez pas. Ne réveillez pas l'amour. Genre, c'est pas le temps. Proverbe chapitre 21, je crois verset 20, ou bien 20-21, dit ceci. Un héritage promptement acquis sera maudit quand viendra la fin. Vous regardez Proverbe 21, s'il vous plaît. Voilà. On peut lire. 1, 2, 3, lisons. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Qu'est-ce que Dieu explique? Une chose peut être à toi, c'est ton héritage. Mais si tu consommes ton héritage avant l'heure, ton héritage sera un problème. Donc, ce qui est à toi, pris avant le temps, n'est pas à toi. Ce qu'on t'a promis, si tu prends cette chose-là avant le temps, ça équivaut à prendre ce qui n'est pas à toi. La notion de temps est importante. Quand Dieu me montre la phrase, elle était ma future épouse, mais en ce moment-là, j'étais pas reconnaissable, j'étais pas la personne. Mais moi, j'ai fait fi de ce verset de Cantique des Cantiques-là. Je dis, Dieu, ce que tu m'as montré, c'est ça. Et nous nous sommes mis ensemble. La souffrance que je lui ai montrée, un homme qui ne s'est pas dit je t'aime, qui est bizarre. Je jeûne et prie seulement avec elle. Je lui offre jamais de flanc. On ne va jamais manger un petit aloco ensemble. Un gars bizarre. Tout le monde s'est prié seulement. Je n'ai prié. Un moment, elle n'a pas pu supporter. Une année après, nous nous sommes séparés. La première année, je prie. Je dis, mais je me suis trompé. Mais l'amour est toujours là. Et je prie pour comprendre. Il dit, tu as fait la chose avant le temps. Et Dieu a pris 4 ans pour me guérir. Quand les 4 ans sont passés, où j'ai compris ce que c'était que l'amour, j'ai appris à aimer, ce dont je parlerai plus tard. J'ai appris, j'ai travaillé ces choses-là. Ah non. Quand le temps est fini, je suis revenu un jour à Abidjan. Quand je la rencontre, je vous assure, elle-même qu'elle m'a vu. Or, pendant la période des 4 ans où je faisais toutes les tentatives de récupération, tout échouait. J'envoyais des fleurs, on jetait mes fleurs. J'envoyais des cartes, parce qu'avant je n'envoyais jamais des cartes. Maintenant, j'ai dit, j'ai appris un peu. J'ai moins une belle carte là. Je pense à toi, je t'aime. Oh! Dieu m'a parlé. Tiens, un bouquet de fleurs. Pendant 4 ans, tentative de reconquête. Mais mes os n'étaient pas encore prêts. 4 ans plus tard, j'ai senti en moi, fiston, tu es prêt. Et puis nous nous sommes rencontrés dans une église quelque part ici à Abidjan. Quand on s'est revus, je vous assure, j'ai senti cette phrase-là. Cette fois-ci. Alléluia. Cette fois-ci, elle-même quand elle m'a vu, parce que d'habitude qu'elle me voyait, elle me regardait très mal. Pendant les 4 ans, quand nous nous revoyons, on se retrouvait quelquefois. Comme on a plein d'amis en commun, on se retrouvait. Mais tu sentais qu'elle me regardait même pas. Elle me salue à peine. Mohamed, ça va? Oui. Oh, moi, je dis, eh. Et puis elle cause avec les autres, ça m'énervait. Elle a plein d'autres copains là. Je dis, oh! Si je pouvais être à leur place. Mais elle ne me calculait pas, comme on dit ici. Mais 4 ans après la séparation, quand je la revois, je la salue. Et je sens un sourire. Notre être intérieur a dit non, cette fois-ci, voilà celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Et quelques temps après, nous nous marions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous voulons baisser nos têtes et prier le Seigneur, invoquer la grâce de Dieu.
Merci Père pour ta parole. Merci parce que tu nous aides à reconnaître au temps marqué la personne qui nous est destinée. Merci parce que pour les personnes qui sont déjà mariées, tu les aides, Seigneur Dieu, à reconnaître la personne qui leur est destinée. Pendant ce message, une des choses sur laquelle tu reviens constamment, c'est notre être intérieur, nos os, notre personnalité intérieure, qui est très déterminante dans le processus d'un mariage réussi. Merci Père pour ce que tu fais dans la vie de tes serviteurs et de tes servantes. Merci parce que tu tends ta bonne main dans nos vies. Tu te souviens des foyers en difficulté. Tu te souviens des foyers qui vont bien. Tu te souviens de ceux qui ne sont pas encore mariés, de ceux qui aspirent au mariage. Tu connais la situation de chacun de tes enfants. Je les remets entre tes saintes mains, Seigneur Jésus, afin que tu interviennes par ton esprit. Aujourd'hui, Papa, je prie afin que tu nous plonges dans le profond sommeil, chacun, et que tu bâtisses en nous les choses que tu veux bâtir. Par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de choisir. Par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de corriger nos erreurs. Par nous-mêmes, nous sommes tellement limités. Mais si nous venons à tes pieds pour entendre ta parole, c'est juste pour rappeler que nous avons confiance en toi. Conduis-nous, transforme-nous pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer très fort le Seigneur. Dieu est bon. Amen.
Merci pour votre attention et réécoutez aussi souvent que possible ce message. Car la foi, pour accomplir des exploits, vient de ce que l'on entend, la parole de Dieu, et la réécoute régulièrement. D'autres enseignements aussi motivants et challengeants du pasteur Mohamed Sanogo, tels que la mentalité des vainqueurs, retrouver son identité, sont à votre entière disposition. Contactez-nous au 22 41 29 80 ou au 02 61 30 63 ou écrivez-nous à l'adresse mail suivante comprod@vasedonneur.org. Nous vous invitons également à visiter notre site www.collectiontransformation.com. Merci et à très bientôt.